Donc, 1 Corinthiens au chapitre 14. Et l'apôtre Paul commence avec ce premier verset. « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. » Alors qu'on va examiner ce chapitre, c'est un peu évident de le dire peut-être, mais voilà, il faut qu'on se rappelle, 14, ça vient après 13, n'est-ce pas? Et donc le chapitre 13 nous a donné une perspective plus large, la perspective globale, si vous voulez, dans laquelle on devrait vivre l'Église, la perspective plus large dans laquelle se situent nos rassemblements en tant qu'Église, et comment on est appelé à exercer nos dons. Donc on a des dons, c'est très bien, il faut aspirer aux dons spirituels, mais comment est-ce qu'on va les pratiquer, comment est-ce qu'on va les exercer? Ça aussi, ça a de l'importance devant le Seigneur. Et donc le chapitre 13, en réalité, c'est le centre de la pensée du développement de l'apôtre Paul depuis le premier verset du chapitre 12 jusqu'à la fin du chapitre 14. En un mot, donc, nous devons rechercher, exercer les dons que l'Esprit nous donne, qu'il donne à chaque membre de l'Église. Chacun, chacune en reçoit de ces dons pour le bien de tous, pour l'utilité commune. On avait vu ça au chapitre 12. On a donc un ministère, chacun et chacune, d'accord ? Pas que les anciens. Chaque membre de l'Église a un ministère envers les autres frères et sœurs par ses dons spirituels. Mais, c'est aussi le grand point du chapitre 13, si vous vous souvenez, on veut exercer notre ministère par les dons spirituels et par les fruits de l'Esprit, ou accompagner des fruits de l'Esprit, et en particulier l'amour. Vous connaissez les fruits de l'Esprit, n'est-ce pas ? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Quand on étend ça vers les autres, quand on manifeste ça vers les autres, on est aussi en train de servir les autres. Et avec les dons spirituels combinés, alors l'Église est en train de grandir. Il faut qu'on utilise alors la perspective du chapitre 13, la suprématie de l'amour, pour juger, pour évaluer les dons, leur importance relative et comment les vivre pour le bien de l'Assemblée qui est le but ultime de Dieu. On va voir ce matin que la communauté de Corinthe au 1er siècle donc, avait mis un accent particulier sur certains dons et même sur un en particulier, peut-être un peu spectaculaire, qui leur semblait du coup, selon les apparences, avoir plus de poids que les autres. Alors là, c'est vraiment l'esprit. L'apôtre Paul exhorte l'Assemblée, en fait, de Corinthe, finalement, à un meilleur équilibre. Et c'est là que la question propre à l'Église de Corinthe va nous toucher, nous. On va pouvoir tirer, nous aussi, des enseignements pour Cavaillon. Paul met en avant des principes et leur compréhension nous aidera à nous assurer que ce que nous faisons dans nos rassemblements est intelligible et édifiant, que ça accomplit les desseins de Dieu et aussi que l'humilité et l'ordre dans nos rassemblements témoignent de l'action du Saint-Esprit en nous. Donc voilà, c'est la trame un petit peu, c'est ce qu'on va regarder plus en détail ensemble. Et vous avez donc l'essentiel sur les feuillets. Mais on va lire donc maintenant le passage de 1 Corinthiens au chapitre 14. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement ? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur eux ? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ? Il en va de même pour vous, si votre langue ne donne pas une parole intelligible, comment saura-t-on ce que vous dites ? En effet, vous parlerez en l'air. Si nombreuses que puissent être les diverses langues dans le monde, aucune d'entre elles n'est dépourvue de signification. Si donc je ne connais pas le sens d'une langue, je serai un étranger pour celui qui parle, et celui qui parle sera un étranger pour moi. Vous, de même, puisque vous aspirez au don spirituel, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc ? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet, si tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement, comment celui qui fait partie des simples auditeurs pourra-t-il répondre « Amen » à ta prière de reconnaissance, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ? Certes, tu prononces une belle prière de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. Frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Au contraire, pour le mal, soyez des bébés, mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. Il est écrit dans la loi, « C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. » Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, quant à elle, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? En revanche, si tous prophétisent qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous. Ainsi, les secrets de son cœur sont dévoilés, et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu, en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères et sœurs ? Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Y en a-t-il qui parlent en langue ? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. Et si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler dans l'église. Serait-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue ? Si quelqu'un croit être prophète ou dirigé par l'Esprit, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. Ok, je propose d'abord de réfléchir un peu au sujet un peu qui anime l'église de Corinthe au 1er siècle. De quoi est-ce qu'on parle au juste quand l'apôtre il mentionne se parler en langue et quand il parle de prophétie. Et donc d'abord, en examinant un peu plus en détail le parler en langue. D'abord, d'après ce passage, c'est une activité qui sert la relation entre un chrétien ou une chrétienne et Dieu. Ça consiste principalement à parler à Dieu, individuellement, puisque ceux qui sont autour et ne connaissent pas cette langue ne comprennent pas, ne comprennent rien. Et on voyait ça au verset 2. L'apôtre Paul dit que ça peut être une bonne chose pour soi personnellement, au verset 5. Il désire que tous puissent parler en langue, puissent bénéficier de ce don-là. Et je vous rappelle que les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit, ont un sens un peu différent que peut-être en français on a l'habitude d'accorder au mot « don ». Il ne s'agit pas de capacité, comme quand on dit « Ah, il a le don pour faire rire celui-là » ou « Elle a un don pour dessiner » ou « Il a un don pour la cuisine ». D'accord ? Là, on est en train de parler de capacité, il est doué pour faire des choses. Mais plutôt que des capacités, l'idée dans la Bible, quand Dieu donne des dons, quand Dieu, le Saint-Esprit fait des dons, c'est plutôt lié au fait que c'est un cadeau, un don, un présent, quelque chose qui nous est donné. Et avant tout, les dons de l'Esprit sont des cadeaux du Saint-Esprit pour son Église, pour son peuple. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu veut faire du bien. Alors quand quelqu'un reçu ce don de parler en langue, il semble qu'il y a une édification personnelle qui a lieu. Vous voyez, verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et ça fait du bien, donc c'est une bonne chose. Ça fait du bien, n'est-ce pas, quand on est fortifié dans sa foi. Ça peut être, bien sûr, un cadeau du Saint-Esprit. C'est ce qu'il aime faire en nous, de soutenir notre confiance dans l'Évangile, de soutenir notre confiance en Dieu, de soutenir notre confiance en Jésus-Christ. Comment ça se passait à Corinthe et aujourd'hui, puisque je ne vois pas de raison biblique qui ferait que entre le 1er siècle et nous, ce don-là a cessé. Alors je vois deux possibilités, et c'est aussi ce que j'ai pu voir dans les commentaires, mais la première, c'est que la personne comprend cette langue elle-même. Donc, elle prie à Dieu dans une langue qui ne lui est pas usuelle et habituelle, mais elle comprend, et forcément, du coup, elle dit des choses à Dieu, et ça édifie, ça renforce sa foi. Mais ce n'est pas nécessairement le cas, en fait. Paul encourage ceux et celles qui ont reçu ce don à recevoir aussi le don d'interpréter, c'est-à-dire dans un sens de traduire ce qu'ils ont dit, de cette langue étrangère vers le langage compris par tous dans l'assemblée. Et on peut voir ça, par exemple, au verset 13. Donc la deuxième explication qui fait que cette personne puisse être édifiée, c'est qu'il doit y avoir une œuvre du Saint-Esprit qui se fait mystérieusement, dans un sens. On voit par exemple au verset 2 ce vocabulaire être utilisé. « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. » On voit aussi au verset 14 que Paul dit que l'esprit de la personne est en prière, elle est bien connectée à Dieu, elle est bien en train de communiquer avec Dieu. Donc c'est réel, il y a vraiment quelque chose qui se passe, mais ça semble passer l'intelligence. Alors bien que toute langue, et je crois même se parler en langue dont Paul fait mention ici pour l'église de Corinthe, bien que toute langue ait une signification réelle, et je pense, une langue c'est du vocabulaire qui désigne réellement des choses et une structure qui coordonne la pensée. Et je pense, Paul fait ce point-là au verset 10, il dit que toute langue a une signification. Dans le cas du parler en langue, il semble que ce sens-là n'est pas perçu par l'intelligence humaine, mais produit quand même un effet dans l'esprit de celui ou celle qui a reçu ce don et qui l'exerce. D'après les versets 14 à 17 encore, se parler en langue, même si on ne sait pas dans le détail peut-être ce qu'il dit, mais on voit quand même généralement à quoi il sert. Versets 14 à 17, se parler en langue exprime des louanges à Dieu. Ça sert à exprimer de la reconnaissance à Dieu. Ce sont des paroles inspirées par le Saint-Esprit qui bénissent et magnifient le Seigneur. Et enfin, une autre donnée que nous avons encore dans ce passage, en lien avec ce que je viens de relever un petit peu plus avant, c'est que, donc bien qu'il y a une œuvre qui se fait dans le cœur, bien que dans un sens l'intelligence de la personne n'est pas directement connectée dans ce qui est en train de se passer, malgré tout, celui qui pratique ce don peut, dans un sens, le maîtriser. Ce n'est pas quelque chose qui le prend tout à fait irrésistiblement. Par exemple, on a lu dans le passage, il peut se taire si personne ne traduit. Donc il peut choisir de faire ça plutôt que de continuer à parler tout haut dans l'assemblée. En fait, il peut et il devrait même préférer dire des paroles intelligibles, Paul va expliquer ça, pendant le rassemblement et attendre d'être à la maison dans un temps plus personnel pour exercer ce don du parler en langue. La grande question que vous posez, que je me suis posée bien sûr aussi, c'est, bon, alors, finalement, de tout ça, est-ce qu'il s'agit de langue humaine, comme au jour de la Pentecôte, comme on lit dans Acte 2, où des gens, des Arabes, des Crétois, des gens de différentes parties du bassin méditerranéen entendaient l'évangile proclamé dans leur propre langue, et cette proclamation avait commencé avant même qu'ils arrivent, donc voilà, plutôt un indice que c'était des langues humaines existantes. Et il y a plusieurs éléments dans ce passage qui vont dans ce sens. Une chose qui m'a fait réfléchir, c'est Paul qui dit « Moi, je parle en langue plus que vous tous ». Eh ben, ce serait pas étonnant, parce que Paul, qui a été missionnaire partout autour du bassin méditerranéen, il est dans son troisième voyage missionnaire, il a déjà pas mal de kilomètres à son compteur. C'est bien possible qu'il a eu une facilité, qu'il a désiré apprendre tout un tas de langues natales régionales, en plus du grec, voilà, qui était commun à tous. Et donc, il a pu chercher à apprendre quelques langues pour être encore plus proche de ses auditeurs. C'est une hypothèse, d'accord? Il y a d'autres éléments aussi dans le passage, ce serait trop long à expliquer aujourd'hui, qui pointent vers la possibilité de langues humaines existantes. Mais ça n'exclut pas des langues non humaines, des manifestations extatiques, des manifestations qui sont au-delà justement de l'intelligence humaine. Est-ce que ça dépend peut-être de comment on comprend au chapitre 13, les versets 1 à 3, où Paul dit « Je pourrais parler toutes les langues de la terre, et même celles des anges, mais si j'ai pas l'amour, ça me sert à rien. » Donc est-ce qu'il y a, c'est possible peut-être qu'il y a un langage des anges. Et donc ça dépend aussi comment on va comprendre ces versets-là du chapitre 13. Est-ce que Paul est en train de faire une hyperbole, une sorte d'exagération pour marquer que voilà, vraiment, sans l'amour, ça sert vraiment strictement à rien de parler toutes ces langues? Ou alors est-ce qu'il est vraiment en train de dire qu'il y a une telle langue spirituelle, céleste, des anges? Ok. Difficile de trancher la question. Moi, je suis à votre disposition si vous voulez en parler après. Et on peut regarder ensemble le passage, je peux vous passer des choses à lire si vous avez envie de creuser davantage la question. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui compte le plus dans ce passage. Et d'ailleurs, pour nous, à Cavaillon, à ma connaissance, en tout cas depuis les trois dernières années où j'étais présent, on n'a pas vu ce don pratiqué, ni celui de prophétie d'ailleurs, dans le sens vraiment où on a dit « Ah, voilà, ça c'est le don de prophétie qui est en train d'arriver ». Alors, du coup, on pourrait dire, bon, alors voilà, on n'est pas concerné. Non, parce que Paul nous dit qu'il faut aspirer aux dons spirituels. Si on doit aspirer aux dons spirituels, alors on doit chercher à comprendre qu'est-ce que sont ces dons. Et il dit, j'aimerais bien que vous parliez tous en langue. Donc, il n'y a pas un problème. On veut être ouvert à l'action de l'Esprit-Saint dans notre vie. Et donc, on veut vraiment donner cette possibilité à Dieu qui nous dépasse, qui fasse des choses au milieu de nous. Qui sont grandes et que lui-même peut conduire. Donc c'est un peu difficile de trancher la question, mais en réalité ce n'est pas ce qui compte pour ce matin, et je ne vais pas essayer de résoudre totalement ça. Juste pour dire, donc, on voit Paul en tout cas qui ne souhaite pas interdire le parler en langue, même si dans un autre côté, pour ce qui est de son exercice en public, il ne l'encourage vraiment pas. Ok. Maintenant, regardons un petit peu, toujours dans essayer de comprendre la prophétie, un autre terme qui revient régulièrement dans le passage, et on doit aussi comprendre, si on doit aspirer à ce don-là, même encore plus fortement que les autres dans un sens, on doit comprendre de quoi il s'agit. Paul nous a dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, c'est une bonne chose, c'est un cadeau, un bon cadeau du Saint-Esprit que l'on peut rechercher, qu'on peut demander. Mais dans les rassemblements de l'Église, ce don a un intérêt limité. Il y en a un qui lui est supérieur parce qu'il vise un objectif collectif. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins qu'il n'y ait une traduction. Dans ce cas-là, le parler en langue rejoint l'objectif supérieur qui est donné au don de prophétie, qui est l'édification de tous, la construction de la foi dans le cœur des uns et des autres. Le don de prophétiser dont fait mention Paul ici, dans le contexte des rassemblements de l'église de Corinthe, est différent du don de parler en langue sur plusieurs points. Celui qui prophétise parle aux hommes et aux femmes qui sont rassemblés en premier. C'est parler à tous ceux qui sont rassemblés quand l'église est réunie. Et ça inclut même, on va voir, des chrétiens et aussi de simples auditeurs, des non-croyants qui sont là. C'est exprimer des paroles intelligibles et non pas incompréhensibles. C'est exprimer des vérités en accord avec la Bible, avec la parole de Dieu, pour édifier, pour exhorter, c'est-à-dire pour appeler à un changement de compréhension, à un changement d'attitude, pour encourager dans un sens, pour consoler aussi et réconforter. On voit ça au verset 3. Comme pour le parler en langue, ça ne nous dit pas exactement, malheureusement, dans un sens, dans ce passage, en quoi ça consistait exactement à Corinthe. Les interprétations vont de la prédication, voilà, ça c'est une prophétie, on est en train d'expliquer une parole en accord avec ce qui est écrit, et ça va exhorter, encourager, consoler les membres qui sont là, jusqu'à, voilà, de nouveau, une pensée qui s'impose dans un sens, qui naît dans le cœur d'une personne, qui est inspirée par le Saint-Esprit, que personne d'autre n'aurait pensé, que personne n'a, dans un sens, tout à fait préparé, mais au moment où l'Église est rassemblée, là, il faut que cette parole soit dite. Là, il faut que cette révélation, dans un sens, soit faite. Il faut que l'Église puisse entendre cette exhortation, cette consolation qui vient de Dieu. Il ne s'agit pas de prédiction. Il y a encore une autre catégorie dans la Bible. On voit par exemple Agabus, ça vous dit quelque chose, qui reçoit une communication directe du Saint-Esprit. D'abord dans le livre des Actes, au chapitre 11, il arrive et puis dit, voilà, dans la Judée, il y aura une famine, donc préparez-vous. Et du coup, l'Église donc s'organise, elle envoie Paul et Barnabas pour faire une collecte et pour que on puisse prendre soin des chrétiens qui vont devoir vivre ces temps difficiles. Mais quand Agabus il arrive et il fait cette prédiction, il dit voilà, le Saint-Esprit m'a dit que. Et donc dans un sens, ce n'est pas discutable. C'était quelque chose dont il était convaincu, dont il était sûr d'avoir reçu du Saint-Esprit. Puis un peu plus loin, au chapitre 21. De nouveau, il y a Paul qui est là avec l'Église et Agabus arrive et est aussi présent. Et il annonce, il fait une prédiction en ce qui concerne Paul et les persécutions qu'il va devoir affronter à Jérusalem. Ici, ce n'est pas discutable, n'est-ce pas? Parce qu'Agabus, de nouveau, il parle de la part directement du Saint-Esprit à la manière des prophètes de l'Ancien Testament. Quand il disait « Voici, l'Éternel parle ». Alors, on ne devait pas arriver devant Ésaïe ou Jérémie et dire « tu, tais-toi, c'est n'importe quoi ce que tu dis ». D'accord ? Jérémie était bien conscient que c'était une parole directement, il était en train de transmettre directement une parole de Dieu. Mais ici, on voit que cette parole de ceux qui exercent le don de prophétie dans l'Église doit être évaluée, qu'elle est soumise à la parole apostolique. Donc pour nous, ce serait l'équivalent de la Bible, n'est-ce pas? Et donc il ne s'agit pas de prédiction dans le sens où quelqu'un se lèverait au milieu de nous en disant « Voilà, le Seigneur m'a dit, alors il n'y a plus de contestation possible, et puis, voilà, par exemple, une telle devrait se marier avec un tel. » Non, 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 ça c'est pas le don de prophétie tel que c'est en vue ici dans Corinthiens. Ou « Voilà, Dieu m'a dit, tu vas voir ton business décoller, ça va aller. » Non, c'est pas ce genre de là. Donc on doit être un peu plus attentif ici. Paul en fait nous dit le but de cette prophétie, de ce don de prophétie. Ceux qui prophétisent, qui apportent ces exhortations doivent le faire donc en accord avec la foi, la doctrine biblique, doivent être évalués. Et donc ils servent un objectif d'édification, donc de construction de la foi, d'encouragement et de consolation. Comme pour le parler en langue, tous ne parlent pas en langue à Corinthe, d'accord ? De la même manière, tous ne prophétisaient pas non plus à Corinthe. Donc c'était des dons qui étaient accordés à certaines personnes. Okay, j'espère avoir déblayé le terrain et qu'on a un peu une meilleure compréhension de ce que c'est le parler en langue et la prophétie qui est en vue ici. Alors je vous invite à regarder pour une deuxième partie, trois principes je pense qu'ils sont valables du coup pour nous ici à Carême. Premier, c'est qu'on devrait viser des rassemblements qui sont intelligibles, qui édifient, c'est-à-dire qui sont compréhensibles. Donc, non seulement dans le langage qu'on utilise, on va pas parler en turc, à moins qu'on soit une majorité de Turcs, on va pas utiliser des choses qui mettent les gens en dehors du coup, si vous voulez. Donc c'est des choses. Nos rassemblements doivent être compréhensibles, concis. Peut-être on doit travailler sur ça. Moi le premier, clair. Où on distingue ce qui se passe, où on explique ce qu'on fait, ce qu'on croit. Donc c'est des rassemblements qui doivent être simples et pas mystiques ou mystérieux dans un sens. Donc on doit viser des rassemblements intelligibles et qui édifient. Vous avez remarqué comment les deux choses vont de pair. Si c'est bien compréhensible, si ça touche et le cœur et l'intelligence des personnes qui sont rassemblées, alors ça va produire la croissance de l'Église, ça va édifier les membres de l'Église. Ça va construire la foi des uns et des autres. Ça va, comme on a dit tout à l'heure, nourrir notre confiance en Dieu par les vérités qui vont être proclamées et qui sont bonnes pour nous. Paul, il utilise une illustration, vous voyez ça au verset 7. Il parle des objets inanimés, une flûte par exemple, qui rendrait un son confus. Vous imaginez une flûte à bec, une flûte traversière, et puis un bon genre de mistral où ça souffle bien fort, on essaierait de la mettre, l'orienter dans le vent, et on verrait quel son ça fait. Ce serait un son confus si on la laisse au vent, ou si la personne qui utilise, soit la flûte ou la harpe, l'utilise mal. Par contre, si c'est un maestro, alors là, ça produit quelque chose de beau. Ça sonne clair, c'est harmonieux. Et Paul est en train de nous dire, voilà, le Saint-Esprit, c'est lui ce maestro qui fait vibrer des êtres comme nous, qui indépendamment de lui sont sans force, pas capables en nous-mêmes. Si on est livré à nous-mêmes, on n'est pas capable de dire véritablement les merveilles de Dieu. Alors, c'est une illustration, bien sûr. Paul ne nie pas totalement l'engagement de notre volonté et de notre intelligence, surtout en ce qui concerne la prophétie, mais il l'a dit au début de sa lettre. Il n'a pas parlé aux Corinthiens selon la sagesse humaine ou les standards humains. Ce n'est pas son éloquence naturelle d'être humain qui faisait la différence. Il l'a fait avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Il l'a fait en s'appuyant sur la révélation de Dieu, qui est la vraie sagesse de Dieu. Nous devons aspirer à être conduits par l'Esprit dans nos rassemblements pour que la sagesse et la puissance de Dieu, du Saint-Esprit en train de nous utiliser, soit évidente et que ça produise un effet dans les cœurs. Le don de prophétie est donc un don plus utile, de plus grande importance au regard de l'objectif d'édification, parce qu'il permet d'enseigner, il permet de rectifier peut-être une mauvaise compréhension, il permet de renforcer ce qu'on a déjà bien compris mais qui a besoin d'être affermi encore dans notre cœur. Il permet aussi d'encourager. Et donc je pense que on se connaît plus ou moins, mais aussi il y a tout un temps qu'on ne vit pas ensemble dans la semaine. On pense les uns aux autres, j'espère, on prie les uns pour les autres, je sais, mais on ne vit pas 24 heures sur 24, même avec son époux ou son épouse avec laquelle on passe du temps, ou avec des amis avec lesquels on passe beaucoup de temps, on les connaît quand même pas entièrement de tout ce qui fait leur être. Et Dieu, lui, il sait ça. Le Saint-Esprit est capable de sonder les cœurs et il sait ce qu'on a vécu quand on est rassemblés les uns les autres. Alors, le Saint-Esprit est capable aussi de nous encourager, d'encourager un ou une ou tout un groupe parmi nous en donnant une parole qui va faire cet effet-là dans le cœur de ceux qui l'entendent. C'est peut-être quelque chose, on dit, mais moi je ne me sens pas concerné ou je ne vois pas pourquoi pour moi, mais ce n'est pas ça justement. On n'est pas ici pour soi, on est ici pour faire du bien aux autres. Le but c'est servir les autres. Et le don de prophétie peut servir ça. Il peut servir à l'encouragement, il peut servir aussi à réconforter ou consoler. Et de nouveau, on ne sait pas, peut-être on sait à moitié ou on ne sait pas suffisamment. Et des fois on manque aussi de paroles. On aimerait encourager quelqu'un qui vit un temps difficile et on a du mal à trouver les mots qui vont vraiment percuter, qui vont être vraiment utiles et bons et doux dans le cœur de cette personne. On est un peu limité, on est un peu ces instruments qui tout seuls ne donnent pas un son très, très beau, quoi. Mais par contre, quand c'est utilisé par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit se sert de nous, de notre bouche, un cœur bien disposé pour faire du bien aux autres, alors, paf, ça peut percuter, ça peut aller profondément réconforter, consoler quelqu'un qui en a besoin dans l'assemblée ou un groupe de personnes. On devrait viser des rassemblements intelligibles et qui édifient, qui donnent un son clair, avec la trompette, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? C'est aussi une parole qui peut d'un coup souder l'église et dire « Allez les gars, on y va, les gars et les filles, hein. On y va, on va faire ça ensemble. Dieu semble nous montrer ce chemin. Allons-y, engageons nos forces ensemble dans ce sens-là. » Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, c'est un peu sous forme de question. Dieu est-il réellement au milieu de nous? Dieu a-t-il réellement la première place dans nos rassemblements? Et vous voyez, ça dépend de l'attitude dans laquelle on fait les choses. Deux actions en apparence identiques peuvent ne pas avoir les mêmes motivations. Une belle prière, avec une belle prière, en apparence, c'est la même chose, mais le cœur peut être très différent de où jaillit cette prière. Vous connaissez dans Luc la prière du pharisien qui, au milieu de la rue, devant tout le monde, fait une prière magnifique, théologiquement juste, dans un sens. Mais son cœur, il n'y est pas du tout, parce que lui, il se considère même pas concerné par les paroles qu'il est en train de dire. Il remercie Dieu, mais c'est selon ses propres mérites, et il ne reconnaît pas que Dieu lui a donné tout ce qu'il a. Mettre la table pour une agape, pour un repas en commun, à côté de quelqu'un qui met aussi la table, c'est pareil, mais la motivation peut être différente. Ça peut être marqué par l'orgueil, par un désir de faire une prouesse personnelle qui attire l'attention sur soi. Ou ça peut être marqué par la mauvaise humeur, même poliment cachée. Ça peut être pris comme une corvée, comme un devoir. Bon, il faut bien que je le fasse, que quelqu'un le fasse. Mais sans être porté par le but d'aimer les autres, de servir les autres, de contribuer à ce que ce soit un moment fraternel et qui soude les liens de l'assemblée. Et Paul nous dit, soyons comme des bébés en ce qui concerne le mal. Pas très mûrs, pas très doués pour ça. Et pour ce qui est du raisonnement et de la compréhension de notre place dans l'Église et de comment on est appelé à servir les autres et faire du bien aux autres, là, on devrait être des adultes. C'est les parents, n'est-ce pas, qui se donnent pour les enfants et pas l'inverse. On devrait être des adultes, on devrait comprendre que c'est notre rôle de se donner, de faire du bien aux autres. Et il applique ça, l'apôtre Paul, au problème propre à Corinthe. Et on a déjà vu cette Église. Elle avait en apparence toutes les richesses qu'il fallait. Elle a été riche de tous les dons de l'esprit, mais il y avait des mauvaises motivations derrière. Le problème à Corinthe, c'est que certains avaient élevé le don de parler en langue, un don individuel, au-dessus des autres dons. Et on l'avait lu au chapitre 12, le but supérieur de Dieu, c'est le bien commun et le culte public. Les Corinthiens se considéraient mûrs dans la foi, mais Paul les regarde un peu différemment. Et en fait, leur lutte là, entre parler en langue et prophétie, et qu'est-ce qui est plus important, a montré un peu leur immaturité. Donc de nouveau, le principe, c'est d'agir pour le bien des autres. Et ici, Paul a même en vue ceux qui sont non-croyants, de simples auditeurs. Est-ce qu'on fait les choses pour les croyants? Est-ce qu'on fait de telle sorte à honorer Dieu et à le suivre, lui? Oui. Mais si on fait ça, alors on va voir que même les non-croyants seront touchés parce qu'ils vont entendre et voir. Le parler en langue, dit Paul, est un signe pour les non-croyants. Un signe qu'ils n'appartiennent pas à la maison de Dieu, qu'ils sont étrangers aux promesses. Ils ne comprennent rien. Donc ils se sentent dans un sens exclus. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de discuter avec un musulman pratiquant. Vous entendrez souvent de telles personnes citer les versets du Coran en arabe, parce que c'est censé être la langue de Dieu, c'est censé être la langue pure, et on ne peut rien comprendre si on ne comprend pas l'arabe. Alors après, c'est des traductions, on essaye un peu de s'approcher du sens, mais en fait, si tu ne parles pas arabe, tu ne peux rien comprendre. Et si vous avez déjà eu ce genre de discussion, on se sent tout de suite écarté. Voilà, ce n'est pas pour moi. La citation de Ésaïe 28 que Paul utilise ici et un peu voilà, nous explique de quoi il s'agit. Vous voyez ça au verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 28, vous pourrez regarder la référence, c'est les versets 11 et 12. « C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. » Ce peuple qui est en vue, c'est Israël, le peuple choisi par Dieu. « Et même ainsi, ils, le peuple d'Israël, ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. » Israël, dans ce passage-là d'Ésaïe, n'est pas montré comme le peuple modèle de Dieu, mais comme le peuple rebelle de Dieu. Et donc c'est Israël qui est comme les autres nations. L'alliance que Dieu a conclue avec Israël ne sert à rien parce que son cœur n'est pas au Seigneur. Israël devait être un peuple à part, mais déjà avec Ésaïe, Dieu dit qu'il a failli à sa mission, qu'il n'a pas respecté le contrat d'alliance et que l'Israël ethnique, selon la chair, ce n'est pas le vrai Israël de Dieu en fait. Ce n'est pas le vrai peuple de Dieu. Ce peuple-là, ce peuple de Dieu, sera défini par une autre alliance conclue par le serviteur du Seigneur. Donc, vous connaissez peut-être dans Ésaïe les chants du serviteur du Seigneur. C'est Ésaïe qui annonce la venue de Jésus. Et grâce à ce serviteur de l'Éternel, le peuple de Dieu sera composé d'un reste du peuple juif. Il y aura des juifs dans le peuple de Dieu. Et aussi de ressortissants, un reste des nations. Donc, dans le contexte de la citation, Israël, le peuple choisi par Dieu dans l'ancienne alliance, avait bien entendu clairement la parole de Dieu au Sinaï. Il avait bien entendu clairement les avertissements qu'il fallait suivre cette parole, que là était la vie, mais ils ne l'ont pas fait. Et ils sont devenus confus. Ils devaient même répandre cette parole, faire connaître, montrer au peuple autour combien c'était bon de vivre sous la loi de Dieu. Alors, comme ils n'ont pas fait ça, Dieu décide de juger Israël par l'invasion de nations étrangères. Il avait prévu le repos dans la terre promise, mais du fait de la désobéissance d'Israël, Dieu fait venir des envahisseurs étrangers, parlant une langue étrangère qui allait les éloigner du repos. Et bien que donc le parler en langue était un signe, comme ils avaient bien compris, ce n'était pas, comme eux l'avaient compris, un signe de maturité spirituelle pour les croyants. Nous, et c'est pas non plus, comme ils auraient pu le croire, et comme c'est parfois argumenté aujourd'hui, que c'était un signe pour les incroyants, parce que quand ils voient quelque chose qui se passe comme ça, le parler en langue incompréhensible, ils doivent dire « Oh, c'est magnifique, il doit y avoir Dieu qui est en train de faire quelque chose ici, qui est présent puissamment au milieu de cette assemblée. » Bien que ce soit un signe pour les incroyants, nous dit Paul au verset 22, ce n'était pas un signe positif, c'est plutôt un signe de la volonté de Dieu de mettre un jugement sur ceux qui refusent de se repentir, ceux qui se refusent d'écouter. De l'autre côté, par contre, la prophétie est aussi un signe pour les croyants. Et on peut comprendre ça. Quand on entend les vérités bibliques être proclamées, quand on les entend appliquer dans des situations particulières, quand on voit le bien que ça fait à l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre, ou un groupe de personnes dans l'église, on se dit, ouais, l'évangile est vrai, on voit Dieu à l'œuvre. Comment on va percevoir ce signe? Parce que la parole de Dieu aura un impact dans la vie des uns et des autres. Et non seulement l'église est fortifiée, mais alors ce qui est magnifique, c'est que les non-chrétiens, les non-croyants, il y aura un impact aussi dans leur cœur, un impact positif cette fois-ci. Il y aura des conversions. Des non-croyants verront leurs péchés. En entendant l'évangile, ils verront leurs besoins de repentance, leurs besoins d'un sauveur. Christ sera dépeint clairement devant eux. Ils verront les applications de tout ce que Christ a fait à la croix pour nous aujourd'hui. L'évangile sera proclamé et plusieurs tomberont à genoux devant Dieu. Ils feront appel à lui pour être sauvés. Donc en fait, le but des dons spirituels et le but de la prophétie en particulier, c'est aussi de mettre Dieu au centre. C'est que Dieu soit en train d'agir, de manifester l'efficacité de sa parole dans les cœurs, non seulement des croyants, mais aussi même des non-croyants. Alors le deuxième principe, c'est que Dieu devrait être au centre. Les dons spirituels et leur exercice devraient contribuer à mettre Dieu et l'évangile au centre. Troisième principe et dernier principe. Si Dieu est le premier, alors ça va se manifester aussi dans l'ordre et la soumission l'humilité qui va caractériser nos rassemblements. Il y a de la place pour tout le monde de contribuer. Ce matin, j'espère, tout le monde s'est senti libre de prier, tout le monde s'est senti libre de chanter, tout le monde s'est senti libre avant même la partie formelle, d'aller voir les uns les autres, de prendre des nouvelles, de discuter, d'encourager l'un ou l'autre. Donc, lorsque vous réunissez, chacun de vous peut contribuer au rassemblement, apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Mais de nouveau, le principe global, c'est que tout se fasse pour l'édification. Et Paul, donc, met en place pour Corinthe des règles par rapport à ça. S'il y a des règles, il y a un ordre. Et ça découle, en fait, de la personne même de Dieu, de ce qui caractérise Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre et pas de désordre. C'est un Dieu qui aime les choses qui sont claires et pas confuses. C'est un Dieu qui a une parole qui veut, il veut que cette parole retentisse nettement et que ça produise un effet. Alors, s'il y en a qui parlent en langue, Paul dit que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Sinon, il vaut mieux se taire. Ça ne veut pas dire se taire totalement, on peut parler à soi-même, même nous dit Paul, et à Dieu donc, puisque c'est le but de ce don de parler en langue. Mais en tout cas, publiquement et à haute voix, il vaut mieux se taire dans l'Église. C'est un ordre qu'on se taise. Pareil pour les prophètes. C'est pas que d'un coup tout le monde parle à tort et à travers, que deux ou trois parlent. Peut-être qu'à Corinthe il y avait tellement de prophètes qu'il y avait plein de choses à dire, mais ça n'empêche pas Paul de restreindre à deux ou trois pendant le temps des rassemblements. Quant aux prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres évaluent leur message. Vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. Donc l'apôtre Paul veut vraiment encourager ses dons, mais ça se fait dans un ordre aussi dans l'assemblée. Deux, trois réflexions sur cet ordre et l'humilité du coup qui va avec. D'abord, s'il y en a un qui commence à parler ou s'il n'y a pas d'interprétation, ou s'il y en a un qui est déjà en train de parler en langue, on ne va pas tous parler ensemble. Donc il y a un ordre dans le sens de la chronologie, de la succession des choses qui se passent pendant les rassemblements. Donc c'est de l'humilité, on doit se taire. Si un autre prend la parole, il y a quelque chose à dire. On voit aussi que ça demande de l'humilité. L'esprit des prophètes n'est pas au-dessus des autres, il est soumis aux prophètes. Et donc il faut qu'il parle en accord avec la foi biblique, en accord avec la doctrine biblique. Ils doivent exercer leur propre jugement et compréhension de ce qui est juste et bon à dire. Il y a ce passage encore qui parle des femmes. Alors peut-être vous étiez choqués, je ne sais pas, tout à l'heure pendant la lecture. On va essayer d'expliquer juste en quelques mots ici. Quand Paul est en train de dire que les femmes doivent se taire, il ne faut pas qu'on comprenne ça dans un sens strict et global et total. Parce qu'un peu plus loin, plus avant plutôt, au chapitre 11, Paul a déjà exhorté les femmes, là aussi avec un certain ordre, on ne va pas lire le chapitre 11, ce serait trop long, mais à s'exprimer dans l'Église, à prier et même à prophétiser. Donc c'est des choses qui sont permises et qui sont des bonnes choses. Donc mesdames, bien sûr, mes sœurs en Christ, chacune peut contribuer aussi à ce qui se passe dans les rassemblements de l'Église. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement quand... Alors il dit que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Ben, on doit comprendre ça en rapport avec l'évaluation qui doit être faite des prophéties. Vous voyez ça au verset 29, quand aux prophètes que deux ou trois parlent et que les autres évaluent leur message. Et c'est dans le contexte de cette évaluation du message des prophètes que l'apôtre Paul demande aux femmes de ne pas intervenir publiquement dans l'assemblée. Il dit, verset 35, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Donc il n'est pas en train de dire non plus, pas grave si vous ne comprenez pas, pas grave si vous n'êtes pas d'accord, pas grave si, d'accord, on s'en ficherait de vous. Non, ce n'est pas ça du tout qu'il est en train de dire. Il est juste en train de dire que dans l'assemblée, c'est un principe qu'il a déjà mis en place dans 1 Corinthiens 11, l'ordre créationnel veut que donc les femmes soient soumises à leur mari, joyeusement, intelligemment, mesdames. et qu'elle elle cherche à être le vrai vis-à-vis que Dieu a voulu entre l'homme et la femme. De même, et juste si c'était nécessaire, on doit dire, les maris doivent honorer leur femme, respecter leur femme, et non pas dominer durement sur elle, bien sûr. Ok, donc il faut qu'on ait ces choses-là quand même bien en tête quand on est en train de lire ces paroles de 1 Corinthiens 14. Et donc, ce serait malséant, selon Paul et selon donc la volonté de Dieu, qu'une épouse, par exemple, ait à reprendre son mari publiquement. Il vaut mieux que ce soit les autres hommes de l'Église qui disent « Écoute, mon frère, je crois que là, tu te trompes. Écoute, en évaluant ta prophétie, ça doit être vrai, ça nous semble quelque chose qu'on devrait réfléchir, mais peut-être ici, tu te trompes. » Et donc, Paul affirme que c'est non seulement un principe qu'il veut voir en place à l'église de Corinthe, mais c'est quelque chose qui est en place dans toutes les églises qui appartiennent au Seigneur. Donc, vous voyez ça au verset 36. « Serait-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être un prophète ou dirigé par l'Esprit, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. » Et je pense que cette phrase, simplement, elle est en train de nous dire, si quelqu'un ignore quelque chose qui est clairement révélé par Dieu, il est en train de manifester justement qu'il n'est pas un vrai prophète, qu'il n'est pas dirigé par l'Esprit. Je suis conscient que, là aussi, comme pour le parler en langue peut-être, et exactement qu'est-ce que ça veut dire la prophétie, on va pas forcément répondre à toutes les questions ce matin, mais là aussi, je veux dire que je suis ouvert à la discussion, et peut-être si j'ai mal compris des choses, je veux bien l'entendre aussi. Mais donc, si ça pose des problèmes, n'hésitez pas à venir me voir. Concluons juste avec les versets 39. « Ainsi donc, frères et sœurs, d'accord, c'est bien hommes et femmes dans l'Église qui sont concernés, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse convenablement, et avec ordre. » Dans un sens, il est difficile de savoir exactement à quoi ressemblaient les rassemblements de l'église de Corinthe, mais par les instructions de Dieu à cette église, au travers de cette lettre de Paul, on peut retirer plusieurs principes qui seront utiles pour nous dans notre contexte à Cavaillon. Je vous invite donc à y réfléchir encore dans les prochains jours. Recherchons l'amour et les dons spirituels, la vie de l'Esprit Saint et les fruits de l'Esprit Saint. S'il y a pas cela dans cette église, elle est morte, elle est un objet inanimé qui ne produit aucun son distinct. Il n'y a que formalisme. On peut peut-être donner le change pour quelques années, faire des actions qui ont peut-être même un retentissement dans la ville de Cavaillon, mais sans la vie que communique le Saint-Esprit, c'est inutile, c'est vain, c'est des paroles en l'air. Un des plus grands freins au développement de l'église, c'est peut-être le manque de soif pour cette vie de l'Esprit. Alors on doit se poser nous-mêmes la question. Église de Cavaillon, nous-mêmes, est-ce que tu as soif de la vie de l'Esprit? Et si on a soif, alors on découvre qu'on est commandé, en fait, à aspirer au don de l'Esprit. Et que donc Dieu veut nous donner ça, puisqu'il nous commande cela. Donc à tous ceux et celles qui écoutent ce matin, Dieu nous dit de rechercher l'amour, de poursuivre et rechercher cet amour-là, de le comprendre, de grandir dans cet amour, d'expérimenter, de partager cet amour tel qu'il est décrit dans le chapitre 13. Et comme vous savez, Dieu promet, celui qui cherche trouve. Et de la même manière, il nous dit d'aspirer aux dons spirituels, de cultiver ce qu'on a déjà reçu, des capacités pour secourir les pauvres, la bonne intendance, l'hospitalité, la prophétie, la prédication, l'explication de la parole, le mariage, le célibat, tout ça c'est des dons que Dieu fait aux uns et aux autres, qu'on a déjà reçus. Cherchons aussi les dons qu'on n'a pas peut-être, qu'on voit il manque un peu dans l'Église. Et demandons à Dieu ces dons pour contribuer à l'édification de tous dans l'Église, pour construire et soutenir la foi de chacun et chacune dans l'Évangile de la grâce. Il y a de la place pour tous les chrétiens et les chrétiennes de différentes manières. Et puis une dernière pensée, réjouissons-nous chaque fois que des non-croyants au milieu de nous pourront constater que Dieu est présent parmi nous. que les rassemblements de cette église sont différents de cercles religieux ou philosophiques ou philanthropiques, mais qu'ils honorent Dieu, le Père, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et tout cela dans la puissance et la vie que donne le Saint-Esprit. Que Dieu utilise nos rencontres pour sauver aussi les pécheurs qui ont besoin de salut. Prions dans ce sens et invitons tous ceux que Dieu nous donne de rencontrer dans nos rassemblements. Amen.